pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Amida et Sabrina se connaissent de vue depuis qu'elles sont enfants. Mais elles sont devenues vraiment amies il y a 7 ans. Elles vivent toutes les deux à Marseille. Amida a 29 ans, elle est mariée, elle a un enfant de 1 an qu'elle garde chez elle. Elle aimerait bien reprendre le travail. Sabrina, elle vient d'avoir 30 ans, elle travaille dans le web marketing et la communication, elle a étudié dans une école de commerce privée. Elle vit chez ses parents, mais là elle a pris un billet d'avion pour Dubaï à la fin du mois de février, un billet sans retour. Elle veut aller travailler là-bas, elle s'est lancée ce défi. Elle a envoyé une cinquantaine de candidatures en réponse à des offres d'emploi ciblées. Pour l'instant, elle n'a reçu aucune réponse, même pas un refus. Amida et Sabrina sont amies, mais voilà ce qui les sépare et les rassemble aussi. Au moment où Amida décide de retirer son foulard islamique si vous préférez, pour des raisons qu'elle racontera, Sabrina, elle, se résout à le porter, le foulard. Elles ne sont pas influencées l'une par l'autre, elles n'ont pas choisi cette coïncidence, mais elles se retrouvent quand même chacune à vivre ça, ensemble et en même temps. Du coup, Amida tout naturellement se déleste de ses vêtements, de sa panoplie complète et la transmet à son amie Sabrina. Voile, abaya, djilbab, jupe ample noire, elle donne tout à son amie, toutes ses affaires et un peu de son savoir-faire, de son bricolage identitaire, de ses tuyaux vestimentaires, plus ou moins teintés de pitié. Ensuite, les deux jeunes filles restent amies, continuent de se fréquenter. Elles racontent aujourd'hui ce qui leur est arrivé, ce qui les a motivées. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. C'est un récit enchâssé croisé de Charlie Dupiau.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, donc ça, c'est mon foulard. Et j'avais ramené aussi des épingles, je ne sais pas où elles sont. Si, là. Voilà, donc sans ça, je ne peux pas attacher mon foulard. Bon, ma mère le fait, mais moi, je n'y arrive pas pour que ça tienne bien. Donc voilà, j'ai ces petites épingles. Je fais un petit chignon un petit peu bas. Et je commence par... Donc moi, en fait, mes foulards ne sont pas à triangle, ils sont en rectangle. Je n'arrive pas à porter les foulards en triangle parce que je n'arrive pas à les mettre comme je voudrais. Voilà, donc j'accroche ici avec une petite épingle pour commencer. Donc je rabats les côtés au niveau de mon cou, je ferme avec l'épingle. On me dit tout le temps « Oh là là, t'as pas peur de te piquer ?» Mais ça y est, j'ai pris la main en fait. Voilà, donc là ça tient bien. Et après, comme il est assez large, je le reprends derrière, en fait. Je reprends l'autre côté et je le rabats devant. Et une fois que j'ai fait ça, je reviens ici. Je reprends toute la partie longue qui traîne et je l'enroule. Tout simplement. Et je fais pareil pour tous mes foulards, en fait. Donc, je les achète vraiment. Je fais en sorte qu'ici, il soit large, vous voyez, pour pouvoir le rabattre derrière. Et voilà, donc c'est comme ça que je porte mon foulard quotidiennement.
J'ai jamais fait ça.
Comment tu le mettais ?
Mais je le mettais de toutes les manières possibles. Moi, j'étais à fond sur les youtubeuses et tout, parce qu'il y a des youtubeuses qui portent le voile. Donc j'en avais de toutes les couleurs, avec des motifs, des fleurs, des cœurs, des pois, tout ce qu'on peut imaginer. Des verts, des rouges, des roses. Et donc, elle montre mille et une manières de le porter. Mais bon, en général, quand je devais sortir vite, c'était un truc, je mettais une épingle là. Et je le passais comme ça, en fait. Plusieurs fois, et je faisais un peu de volume là, en fait, tu vois.
Vous l'enrouliez, en fait, autour de la tête?
Ouais, je l'enroulais autour de la tête, tout simplement.
C'est bizarre de te voir comme ça.
Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu avec le voile, ouais.
Je le bloquais avec une petite épingle au niveau du cou, du menton. Et je prenais la partie longue, je refaisais un tour juste au-dessus de mon front, ou au milieu de mon crâne si on veut, et je le plissais plusieurs fois pour que ça fasse un petit peu de volume et joli en haut. Voilà, quelque chose comme ça. Mon envie de mettre le voile, elle résultait d'un cheminement que j'ai eu à un moment dans ma vie. Je me suis posée, puis je savais pas trop qui j'étais, je savais pas où j'allais. Je devais avoir 22 ou 23 ans. J'ai pas eu d'éducation religieuse. Je viens d'une famille où, comme beaucoup, c'est uniquement de la culture où on fait le ramadan. On sait pas pourquoi, on fait l'Aïd, c'est bien, on sait pas pourquoi, c'est génial, on y tient. Mais on sait pas pourquoi. On prie pas, et puis voilà, c'est comme ça. Et moi, à un moment, je voulais en savoir plus. Je voulais savoir pourquoi on faisait tout ça. J'ai passé ma période rebelle durant mon adolescence où j'ai été voir ma mère et puis j'ai demandé pourquoi on faisait le ramadan. Elle m'a pas répondu. Et bien, j'ai pas fait le ramadan. Parce que moi, si je savais pas, je pouvais pas faire, en fait. Et je voulais me connaître. Voilà, parce que j'ai une identité. Je suis française, je suis tunisienne, je suis musulmane. Finalement, il n'y a pas trop d'islam, c'est plus de la culture. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas où j'étais. Et il y avait quand même un vide en moi. Et je suis tombée sur une personne à ce moment-là qui était super pédagogue. C'était un ami avec qui je parlais beaucoup. Et puis un jour, on se met à parler de religion. Et moi, j'étais vachement fermée sur le sujet. Mais d'une conversation à l'autre, il me demande pourquoi je ne prie pas. Puis je lui réponds et il me dit « Ah, mais tu sais, tu devrais lire, regarde le Coran à cet endroit-là, machin. C'est quand même une nécessité. » Et puis il m'envoie vers un autre livre. Et j'ai beaucoup appris, et puis finalement, j'ai prié. Et finalement, le voile, c'est venu comme tout. C'était une chose parmi tant d'autres, parmi la prière, parmi l'aumône, parmi le comportement à avoir envers son voisin, parmi la manière de traiter ses parents. C'était une chose normale dans le chemin que j'avais pris. Alors au début, je l'ai porté, je m'en cachais de ma famille. Parce que chez nous, une fille, ça porte pas le voile à 22 ans. Ça doit porter le voile un jour quand on est grand-mère, mère, loin, quand on a 50 ans. Mais jeune, on peut pas porter le voile. Et puis ma famille me disait que j'étais trop coquette, que j'allais pas tenir pour mettre du vernis à ongles, pour mes brushings. Parce que j'étais trop coquette. Malgré mon voile, je continuais à faire mon brushing tous les soirs, à me maquiller. Et on comprenait pas. Voilà, on comprenait pas comment Amida, la personne aussi coquette, aller s'enfermer sous un voile. Une fois, je portais un gilbeb. C'est un vêtement très large qui couvre l'intégralité du corps. Et je vais rendre visite à ma famille. Et mon oncle entre dans la maison et c'est mon oncle d'amour. Moi, j'ai pas de père et c'est mon oncle qui s'occupait de moi quand j'étais petite. C'est vraiment une figure paternelle pour moi. Et c'est un homme que j'affectionne particulièrement. Et quand il me voit, je me lève pour lui faire la bise et il me dit « ne t'approche pas de moi ». Donc je reste bouche bée, je comprends pas. Et il me dit oh « Oui, tu portes tes trucs de ninja là, t'es pas ma nièce avec ça. Le jour où t'enlèves tes trucs là de carnaval, tu viendras me parler. » Donc moi je commence à pleurer, ça fait un scandale, ça part en grosse dispute familiale. Et je savais pas trop où mettre, j'osais pas trop parler parce que j'étais jeune, mais ça m'avait vraiment blessée. Et voilà, donc il y a eu des choses comme ça, difficiles, très difficiles avec ma famille. Et finalement, ça s'est bien passé avec mes amis. Et puis après, il a fallu retourner au travail, un petit peu à la vie active, machine. Et puis au travail, je ne pouvais pas prier, donc il fallait rentrer le soir et rattraper ses prières. Donc là, c'était déjà... ça devient un fardeau, en fait. Pour moi, j'ai commencé à le vivre comme ça. C'était une obligation... De rattraper mes prières et c'était plus tellement finalement le plaisir de la rencontre de Dieu, du moment spirituel, c'était devenu lourd à porter. Et puis il y avait aussi une seconde chose qui était d'enlever mon voile pour aller au travail. Alors j'ai fait plein de boulots, j'ai eu un premier boulot dans lequel je pouvais le porter, donc c'était génial, mais c'était un remplacement donc j'ai dû le quitter, où j'étais chargée de communication dans une boîte d'édition. Ensuite, j'ai fait la vendeuse en boulangerie, dans une grande boulangerie, là, à Marseille. Enfin, un peu l'endroit à la mode et un peu classe. Donc, il était hors de question qu'il y ait une vendeuse qui porte le voile, tout simplement. Voilà, c'était même pas envisageable, je ne l'ai même pas demandé parce que je sais qu'on ne m'aurait même pas embauchée à la base. Parce qu'il y a des endroits où on ne voit pas de filles voilées, quoi, tout simplement, ce n'est pas possible. Je mets un voile dans les transports pour aller au travail. Arrivé dans le quartier du travail, je l'enlève parce qu'il ne faut pas qu'on me voit dans le quartier avec mon voile. Je vais travailler, je suis tout sourire, je suis toute mignonne, je suis toute maquillée. Et finalement, je me rends compte que j'ai deux personnalités où je fais la blague un peu avec les collègues masculins et puis ça dérape vite. Et puis je me dis qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je fais finalement ? Je rentre au boulot, Je suis une personne, je sors, j'en suis une autre. Le fait de remettre mon voile dans la rue, ça m'embêtait énormément aussi. Parce que je me sentais observée, je me sentais jugée, je me disais les gens doivent croire justement qu'on me force à le mettre. C'était devenu compliqué pour moi à gérer, c'était pas aussi facile que ça.
Tu sais qu'à ce propos, je me souviens une fois t'avoir croisé dans le tramway. Mmh. On rentrait là où, dans le quartier où on habitait en fait. Et je l'ai croisé dans le tramway avec ses cheveux, alors que je connais Amida voilée. Mmh. Et je sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais j'avais trouvé ça super bizarre. En fait, j'ai dû faire comme si de rien n'était, mais j'arrivais pas à comprendre. Et je lui posais la question, je disais, mais t'as retiré le voile, Amida ? Elle me dit, non, c'est parce que je reviens du travail. Et je me disais, mais pourquoi elle le remet pas ? Enfin, j'étais pas encore voilée hein, à l'époque. Et je comprenais pas, je me disais, mais en fait... Je trouvais que c'était pas cohérent en fait avec la Amida que je connais qui est voilée et que d'un coup on est loin du travail. Pourquoi tu le remets pas ? Et en fait c'est vrai que ce truc de devoir le remettre, ça doit être un peu compliqué.
Bah c'est gênant, il faut trouver un endroit où le mettre. Et puis peut-être parce que ça m'est déjà arrivé souvent, peut-être qu'il y avait un collègue avec moi dans les transports. Donc souvent dans les transports je remettais pas mon voile parce que je voulais pas qu'on me voit en fait parce que c'est très mal vu et puis que je voulais mon travail. Il y a eu aussi un autre truc. Qui a été déterminant, c'est que cet été-là, je ne sais pas si tu t'en souviens, je travaillais, je faisais des saisons là, dans les mariages où j'étais serveuse.
Non, je ne m'en souviens pas.
J'étais serveuse dans des mariages. Et puis forcément, pour être serveuse, il faut être un peu fraîche, quoi. Donc je mettais mon petit pantalon noir avec ma petite chemise courte blanche, vous voyez, tranquillement. Et j'étais habillée vraiment comme toutes les filles parce qu'on va dire, quand j'allais travailler ailleurs, j'avais toujours une petite tunique, un truc qui fait qu'on voyait pas mes formes. Je répondais quand même un petit peu à des critères physiques du voile, à des exigences. Et là, c'était plus du tout le cas. Je mettais un petit pantalon noir avec une petite chemise, peut-être manche courte en fonction des jours et des besoins. Je me faisais belle et puis j'allais. Et puis, comme toutes les serveuses, je me faisais draguer en fait. Et je rentrais chez moi le lendemain, je mettais mon voile, j'allais au marché. Mais c'est quoi ce délire, vous voyez? Et puis, je m'étais éloignée de Dieu par rapport à tout ça, en fait. Ma priorité, c'était plus vraiment la religion. J'étais à fond dans la vie, travail, la course, comme tout le monde. Et je voulais pas vivre ça de cette façon-là. Je voulais pas que ce soit un combat. Je me sentais plus digne de porter ce voile, on va dire. Peut-être pas une question de dignité, mais le voile ne correspondait plus à la personne que j'étais devenue, finalement. J'étais plus la personne qui avait découvert tout ça, qui était follement passionnée par sa religion. J'étais devenue juste une fille plus instruite, certes, mais une fille... pourquoi je porte le voile ? Puisque toute la journée, je suis avec des gens, je le porte pas, c'est un peu n'importe quoi. Donc j'ai fini par l'enlever. Voilà. Pour l'enlever, par contre, ça n'a pas été une chose aisée non plus. J'avais quand même le poids du coup de la famille. J'étais la fille qui portait le voile, donc du coup j'étais devenue un exemple. C'était super. Et il fallait assumer de l'enlever après. Donc ça, c'était assez compliqué. Donc je l'ai fait de manière évolutive, où j'ai commencé à porter des turbans, à découvrir un petit peu mes bras, à m'habiller différemment. Et j'ai fini par l'enlever tout court. Tu t'en rappelles ?
Je me souviens aussi que quand tu l'as retiré, j'avais pas voulu le dire à mes parents, en fait. J'avais du mal à assumer que mon ami avait retiré son voile, ouais, je me souviens. Ouais.
J'ai eu du mal à l'assumer aussi devant ses parents. Moi, je suis la petite d'une grande fratrie, on est 7. Et puis quand j'ai porté le voile, il y avait mes voisins qui disaient à mes sœurs, ouais, regarde, fais comme ta sœur, prends modèle sur ta petite sœur, t'as pas honte, machin, parce que bien sûr, on vit dans un quartier, on est tous musulmans, enfin la plupart, et une fille qui porte le voile est jeune, ben c'est bien en fait, c'est bien, et puis c'est un peu une fierté, il faut que ce soit un exemple, donc j'étais devenue un exemple, comme l'a dit Sabrina, un modèle. Donc après, va assumer de plus être ce modèle finalement.
C'est quand même un problème cette histoire de modèle là, parce qu'on est voilé, ça met une pression de fou, parce que on se dit voilà, il faut que je représente un peu l'image de la femme musulmane, il faut pas que je me rate, il faut pas que je fasse quelque chose de travers, sinon on va toutes nous mettre dans le même sac. Et tout à l'heure, je sais pas si t'as vu mon snap, Amida, j'ai mis un snap d'une conversation avec ma petite sœur en fait, parce que je lui ai envoyé un snap où il y avait une chanson, c'était une chanson de Booba je crois, dans la voiture, et je me suis filmée en la chantant et je l'ai envoyée à ma sœur. c'est ma sœur, hein, j'ai aucune gêne avec elle. Et du coup, elle m'a renvoyé un message en me disant « Qu'Allah te guide, ma sœur, tu es égarée du chemin. » Mais elle me dit ça pour rire, mais c'est l'image que ça renvoie, en fait. C'est qu'une fois qu'on est voilé, ben, il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'on fait. Et parce que, justement, on nous attend comme ça, on nous attend au tournant. Et on doit devenir un modèle, alors que non... On n'est pas parfaite et du coup, on se retrouve même plus à faire les choses pour Dieu, presque. On doit les faire pour que les gens n'aient pas une mauvaise image de nous et de toutes les femmes voilées parce qu'on porte cet étendard, voilà, comme ils aiment bien l'appeler, religieux, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
Combien de temps je l'ai porté? J'ai dû le porter en 2011, je crois, 2010 ou 2011. Fin 2010, je l'ai porté.
Tu l'as retiré en 2013. Tu l'as retiré fin 2013, septembre, octobre, ouais. Quand moi, je me suis voilée, en fait.
C'est ça.
Et Sabrina, elle se questionnait beaucoup. Elle était là où j'étais quelques années en arrière. Et elle me parlait de plus en plus du fait qu'elle avait envie de porter le voile. T'avais la pression parce que tu voulais le mettre une fois pour toutes et pas l'enlever. Et un beau jour, elle vient et puis je lui dis « Bon, tu m'en parles tous les jours, qu'est-ce que tu attends finalement ?» Et elle me dit « Bah, tu sais, en fait, en réalité, j'ai pas de vêtements là, adaptés à la tenue adaptés au voile. Je sais pas trop comment faire, et puis j'ai pas trop de thunes pour m'acheter des habits en ce moment, je sais pas, tout ça. » J'ai été dans mon armoire, je lui ai rempli un sac cabas avec plein de vêtements et du coup, elle a pu porter le voile. Il me semble, le lendemain, tu l'as porté. Ouais.
C'est ça. Et le lendemain, directement, je l'ai porté et j'ai ramené quelque chose d'ailleurs. Je ne sais pas si tu le reconnaîtras, Amida. Donc, en fait, je t'ai rendu pas mal de choses, je me souviens, de foulard. Est-ce que tu te souviens de ce foulard-là?
Oui, je l'adorais.
Voilà. Ben maintenant, c'est le mien. Et en fait, c'est le premier foulard que j'ai porté en fait, dans ma vie. Donc, c'est le premier que j'ai mis le premier jour où je suis sortie. Donc, il est beige avec un peu de dentelle noire, des strass. Il est très joli. Et voilà, je le garde en souvenir. J'ai pas voulu te le rendre parce que c'est très symbolique pour moi. J'espère que tu le veux pas.
Non, c'est trop beau, j'adore. Ouais, voilà. Garde-le toute la vie.
Je le garde toute ma vie. Et voilà, je l'ai porté directement le lendemain, en fait. J'ai pas hésité. Donc ce jour-là, je n'avais pas cours. Puisque j'avais décidé de me voiler, il fallait que je sorte avec mon voile, en fait. Mes parents étaient dans la cuisine, donc je passe devant eux. Alors, il faut savoir que contrairement à Amida, moi, j'ai une famille très pratiquante. Mon père a toujours été pratiquant, ma mère aussi. Ma mère porte le voile. Mon père a été à la Mecque, a fait son pèlerinage 4 fois, pour vous dire. Ma mère y a été aussi 1 fois. On a grandi vraiment dans la tradition musulmane. On prenait des cours d'arabe et de Coran quand on était petit. Vraiment la famille pratiquante, quoi. Mais moi, avec mon esprit rebelle, et vraiment, je voulais pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Bon, à part le ramadan, je faisais pas grand-chose, quoi. À part prier une fois oui, une fois non. J'étais vraiment pas du tout constante dans ma pratique. Et ça ne m'intéressait pas, à vrai dire. J'avais pas envie de ça. J'avais envie... Chez moi, il y avait beaucoup de religions et j'aimais beaucoup être dehors, en fait, pour m'éloigner de ça. Parce que c'était pas ce que je recherchais à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais besoin de sortir... D'avoir des copines, des copains, de pas être dans ce carcan-là religieux. Et c'était pas du tout ce que je recherchais. Peut-être que la pédagogie n'était peut-être pas bonne à l'époque, je pense, parce que peut-être que, je sais pas en fait, c'était trop présent pour moi et j'avais besoin d'autre chose. Mon père a essayé de me parler du voile quand j'avais 16 ans, dès que j'ai commencé un petit peu à grandir. Et il a très vite déchanté, en fait, parce qu'il a très vite compris que ça n'allait pas du tout être quelque chose que je porterais de sitôt, en fait. Et il m'envoyait souvent dans la figure que ça y est, j'ai commencé à devenir une femme et qu'il fallait que je me couvre, quoi. Il fallait que je sois une femme voilée. Mais moi, je me trouvais tellement jeune pour ça. Enfin, c'était... impossible. Et puis, je me suis toujours dit que je me voilerais une fois mariée, parce que pas maintenant, quoi. C'est pas le moment. Et donc, ils ont abandonné l'idée, disons. Ils n'ont même pas imaginé qu'un jour je me voilerais. Et puis c'est ce qui est arrivé ce jour-là. Et vraiment, ça a provoqué une très très grande joie et émotion au sein de ma famille, surtout mes parents. Enfin, j'ai ressenti une fierté. Ils étaient vraiment très 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 contents. Je crois que de toute ma vie, je ne les avais jamais rendus aussi fiers que ce jour-là. Fiers et un peu méfiants aussi. Parce que, comment ça, pourquoi elle porte le voile comme ça du jour au lendemain? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle va le porter? Elle va l'enlever après? Vous savez, ils sont braqués en fait un petit peu dans on n'y croit pas vraiment quoi. Faut pas trop qu'on y croit parce qu'elle va peut-être l'enlever. Ou il y avait ça aussi, ça beaucoup chez ma mère, pas trop chez mon père, mais ma mère m'a dit à plusieurs reprises qu'elle avait peur que ce soit sur un coup de tête et que j'allais le retirer du jour au lendemain comme je l'ai porté du jour au lendemain. Et voilà, et puis le jour où je l'ai porté, vraiment, ils étaient surpris, ils s'y attendaient pas. Et même moi, c'est-à-dire que 2 semaines avant, je m'attendais pas du tout à ce que je porte le voile. C'était pas du tout prémédité, en fait. C'est vraiment venu sur le tas. Mmh. C'est au cours de ma réflexion, au moment où j'ai eu besoin d'autre chose, au moment où j'ai eu besoin, justement, de me poser quelques limites et des limites que seule la religion pouvait m'apporter. Pas des limites, des repères, plutôt. J'avais besoin de repères. Parce que j'étais complètement perdue entre ce qui se passait chez moi et ce qui se passait dehors. Et je sentais que ce que je faisais dehors n'était pas bon, en fait. C'était, au fond de moi, enfin, moi, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cru en le paradis et l'enfer, et je savais que ce que je faisais n'était pas en accord avec ma religion, et en dehors de ma famille, de l'influence familiale que j'ai pu avoir d'un point de vue religieux, j'avais peur de Dieu, en fait, parce que je savais que ce que je faisais, c'était pas net. Bon, je faisais rien de très grave, hein. Voilà, j'étais juste, je pratiquais pas, j'étais pas voilée, j'allais à la plage, je me mettais en maillot, j'avais des copains, enfin. J'avais besoin d'un peu plus de spiritualité dans ma vie et de calme. Et de me poser, de me dire, bon, allez, maintenant, tu réfléchis, est-ce que tu veux prendre ce chemin ou est-ce que tu veux en prendre un autre? Alors, je vais cacher quelque chose que j'ai déjà montré. C'est-à-dire, je vais cacher ma beauté, je vais cacher mes cheveux, je vais cacher ma sensualité. Mais j'ai toujours besoin de plaire. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, sur Snapchat, par exemple, j'ai besoin... En fait, je n'aime pas me snapper avec mon foulard. Voilà, ça ne me plaît pas. C'est pas vraiment moi. Et du coup, j'ai quelques amis sur Snapchat. J'ai des amis garçons aussi. Donc, du coup, j'ai bloqué mes amis... homme de ma story.
De ce qu'ils peuvent voir.
Voilà, c'est ça. Pour pouvoir être libre sur Snapchat de me filmer ou de me prendre en photo avec mes cheveux. Parce que j'ai besoin de me montrer quand même. Mais je me montre à mes copines. Enfin, ça sera que des filles qui verront ou mes frères. J'ai mon frère aussi sur Snapchat. Donc voilà, il y a ce besoin. Maintenant, ça devient un besoin. Donc je suis couverte. Les hommes ne me voient pas. Mais dès que j'ai l'occasion de me montrer, je me montre en fait. Et oui, c'est très compliqué pour moi, c'est surtout compliqué. En fait, c'est aussi compliqué pour moi au moment où je suis en train de me préparer pour sortir et que je suis habillée, je suis maquillée et que je n'ai pas encore mis mon foulard. Et lorsque je passe devant le miroir, ça me fait un petit pincement au cœur quand même. Je me dis, j'aimerais bien sortir comme ça quand même parce que voilà, je me trouve jolie, je me plais. Et puis après, ben non, il faut porter le foulard. Enfin, et après, je le porte et je sors. Ça crée quand même une certaine frustration. C'est très dur, surtout pour une femme célibataire. Une femme mariée, à la limite, elle plaît à son homme. Et puis, si elle lui plaît, si elle a réussi à plaire à son homme, c'est bon, mission accomplie, elle est heureuse, quoi. Quand on ne plaît à personne, on a besoin de se voir dans le reflet de l'autre. Et généralement, c'est dans le reflet de la personne du sexe opposé. Et ça me fait du bien quand mes amis me trouvent belle, me le disent. Voilà, ça me fait du bien. Mais ça... J'ai besoin d'avoir une personne dans ma vie et je ne suis pas mariée. Donc comment avoir quelqu'un dans sa vie sans être mariée et en voulant ne pas braver les interdits? Je sais que je suis que j'ai fait le bon choix. Je le sais. Je sais qu'en me frustrant, je sais que c'est une bonne chose. Je sais que Dieu est satisfait de moi. Mais c'est difficile. Ça n'empêche pas le fait que ce soit compliqué.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, l'une voilée, l'autre pas. Un reportage de Charlie Dupio, réalisé par Marie Placet. Merci bien sûr à Amida et à Sabrina pour leur accueil. Merci de s'être dévoilée, si je puis dire, pour nous. Merci également à Amel Rachem, qui est rédactrice en chef du magazine musulman Ali. Sandrine Chaperon, c'est attachée de production des Pieds sur Terre. Jeanne Boézek, c'est notre stagiaire. Vos commentaires, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On vous y attend nombreux. Et pour nous écouter et nous réécouter où vous voulez et quand vous voulez, c'est podcast obligatoire.